그. 이 담은 머리 있는 굴레 바바.
이 담은 머리 넌 불러 먹공. 먹공 몰라 문용아 봉일랑 울렁은 여자. 에이 담은 머리는 굴러 먹공. 먹공 몰라 문용아 봉일랑 울렁은 여자. 에이 담은 머리는 굴러 먹공. 먹공 몰라 문용아 봉일랑 울렁은 여자. 에이 담은 머리는 굴러 먹공. 먹공 몰라 문용아 봉일랑 울렁은 여자.
J'ai eu l'occasion de rencontrer Tinement. Bonjour à toi.
Bonjour à votre immense public.
Et ben voilà, on a eu l'occasion de se rencontrer et nous sommes rencontrés autour des questions culturelles, autour des questions de transmission. Nous avons échangé en quelques mots. Tinement, tu viens du Cameroun, tu es sur Verneuil-sur-Avre depuis un petit moment maintenant, mais... ce n'est pas ça qui fait ta particularité. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et notamment à travers les activités que tu as eues?
C'est difficile, Jean-Claude, de pouvoir me présenter, mais j'essaierai. Je commencerai par dire que je suis un fils de Kama. Je suis un fils de Kama. Et qu'est-ce que Kama?
J'allais te poser la question.
Kama, c'est la terre mère. C'est la terre mère de l'humanité. C'est de là-bas que je viens. Et j'ai une formation philosophique, j'ai été formé à ce qu'on appelle la philosophie professionnelle ou la philosophie académique, mais aujourd'hui j'en ai pris mes distances, j'essaie de retrouver la philosophie ou la sophia de Kama, la sophia de la terre-mère, et je me sens, je dirais, porteur de cette sophia-là. J'essaie de la porter, j'essaie de l'intégrer dans moi-même et de la vivre. Voilà un peu qui je suis. S'il faut aller plus loin, de manière plus précise, je suis un Netone, une ethnie du Cameroun. Je suis un Netone précisément en Vogue-Bodé. Les Netones font partie des Béti. Je suis un Bantou. Je suis un Africain. Pour ne pas faire confondre les gens, mais je préfère qu'on me considère comme un fils de Kama.
Tu évoquais la différence entre la philosophie académique et la philosophie Kama. En quelques mots, quelles en sont les grandes différences?
La philosophie professionnelle, pour le cas de l'Afrique, et peut-être que ce serait le cas en Europe, mais je ne suis pas européen, je n'ai pas fait mes classes en Europe pour pouvoir en parler. Ce que je vais dire, c'est que la philosophie en Afrique, elle est duale. Elle est duale en ce sens qu'elle est professionnelle. C'est celle qui est principalement enseignée dans des universités. C'est celle dans laquelle on retrouve des fonctionnaires qui sont employés par l'État. Et il y a cette philosophie du quotidien, cette philosophie que charrie la tradition, l'histoire multiséculaire de l'Afrique, et qui, elle, est moins connue, mais qui continue de vivre et qui a également son histoire, qui est véhiculée par... l'un de ses principaux éléments qu'on abordera, qu'on touchera aujourd'hui, le conte. Donc, elle est transmise par l'un de ces éléments-là.
Quand tu dis elle est moins connue, elle est moins connue peut-être universitairement, peut-être moins connue en Occident, mais c'est celle qui, chez les peuples, les habitants, les citoyens qui vivent en Afrique, est la plus répandue tout de même.
C'est justement celle qui est la plus répandue. Et le paradoxe de l'Afrique aujourd'hui, c'est justement le fait que cette philosophie que les hommes, que les Africains vivent au quotidien, est majoritairement en rupture avec celle qui est pensée dans les académies. Je n'ai pas dit que la philosophie traditionnelle, la philosophie comme vécue des peuples, n'est pas de temps en temps abordée dans les universités. Mais il est regrettable de constater qu'elle est très minoritairement abordée. Elle n'est pas le sujet central. Et on peut le regretter, surtout lorsqu'on arrive en Occident, parce qu'on se rend compte que, par exemple, en Occident, les Occidentaux font principalement... En fait, il n'y a pas cette rupture entre la philosophie culturelle occidentale et la philosophie académique. Le continuum est établi tout de suite. Or, en Afrique, lorsque vous observez, il y a tout de suite cette rupture, une philosophie occidentalisée enseignée dans les universités, et les diplômés de philosophie qui sortiront de ces universités sont généralement des spécialistes en philosophie occidentale d'origine africaine, mais ils ne sont pas des philosophes africains ou alors des philosophes porteurs de la sagesse de Kama.
Alors justement, finalement, cette philosophie Kama, j'ai l'impression de Kama, en fait, c'est de la terre, du quotidien finalement, celle du bon sens de la vie et de la réflexion des peuples, en fait, finalement. J'ai la sensation, à travers ce que tu nous dis, qu'elle est un peu décrochée quand même de la philosophie plus universitaire, plus académique, plus occidentale.
Elle n'est... Il faut dire qu'elle n'est pas décrochée. Souvenons-nous que l'Afrique a été colonisée. Et si l'Afrique a été colonisée, l'Afrique aujourd'hui, on pourrait dire elle est métisse. Mais le paradigme culturel que moi je propose pour l'Afrique, c'est le paradigme du croisement. Il y a eu ce moment de rencontre avec l'autre. Mais avant la rencontre avec l'autre, nous avons notre patrimoine. Le problème de l'Afrique, c'est que le croisement n'est pas fait de façon harmonieuse. Donc, je ne dirais... cette philosophie quotidienne-là, c'est aux intellectuels, notamment aux intellectuels formés à la philosophie, de la prendre en charge pour lui donner un contenu, pour la conceptualiser. Je pense que c'est ce qui est fait dans tous les peuples. Tous les peuples, tous les chercheurs, tous les savants conceptualisent la pensée quotidienne de leur peuple pour lui donner une hauteur scientifique. En Afrique, ce travail n'est pas suffisamment fait et c'est regrettable.
Là, ce qu'on appellerait la philosophie de Kama, la philosophie du quotidien, elle a une tradition orale aussi. Alors aujourd'hui, on arrive à trouver des ouvrages qui l'abordent, et toi-même, tu es venu avec plusieurs ouvrages dans ce sens-là, mais elle est tradition orale tout de même, cette philosophie de Kama, où finalement, il y a toute une littérature également sur laquelle elle s'appuie.
Aujourd'hui, il y a toute une littérature. Mais il y a également une tradition orale qu'on n'a pas encore épuisée, il faut le reconnaître. Il y en a qui ont fait des travaux dessus, vous le connaissez certainement. J'ai là Amadou Ampateba, j'ai d'autres philosophes contemporains comme Bonaventure Véondor qui travaillent dessus. Il y en a qui ont fait ce travail pour recueillir ces éléments de la littérature orale de façon générale, que sont les contes, les mythes, les légendes, les proverbes, les maximes. Il y en a qui font ce travail-là. Mais ce qu'il faut dire, c'est que cette philosophie n'est pas encore, n'a pas, je dirais, elle n'est pas épuisée. Elle est un sentier sur lequel il faut que nous, les Africains, nous nous investissions, parce que je pense que c'est la chose la meilleure qu'on peut apporter au rendez-vous du donner et du recevoir. Si la philosophie, c'est la fine fleur des peuples, les philosophes africains doivent se retourner dans leur culture pour apporter à travers leur culture, ce qu'il y a de plus précieux.
Sur cette question de transmission, on l'a abordé très très rapidement, il y a le conte qui est un outil assez important, et notamment dans cette philosophie de Kama, il y a le conte qui est un outil essentiel.
Oui, il y a le conte qui est un outil essentiel. Le conte fait partie de ces différents éléments qui structurent, on pourrait dire, la pédagogie et la didactique africaine de façon générale. Et j'ai cité tout à l'heure les contes, les proverbes, les légendes, les maximes. C'est à travers ces... Vous savez, la pensée africaine, la pensée de Kama, parce qu'on est toujours obligé de dire africaine, la pensée de Kama n'est pas systématique. Il n'y a pas l'université comme on l'entend. L'université en Afrique aujourd'hui est la conséquence d'une grève culturelle. Il faut le reconnaître. L'université en Afrique est la conséquence d'une grève culturelle. Le secondaire, tel qu'on le voit aujourd'hui, est la conséquence d'une grève culturelle. Mais comment est-ce que la science, comment est-ce que le savoir, comment est-ce que les valeurs se transmettaient? Les valeurs se transmettaient à travers ces éléments qui sont majoritairement de nature orale, mais il ne faut pas, lorsqu'on parle de l'oralité en Afrique, tomber dans le piège de penser que l'Afrique est orale. L'Afrique a privilégié l'oralité, mais l'Afrique connaît les deux modes de transmission du savoir, c'est-à-dire le savoir, la transmission orale et la transmission scripturale. Elle a privilégié, et notamment pour la transmission populaire, l'oralité.
Quand on parle de transmission, et notamment autour de la culture africaine, nous, en Occident, on a une image très claire dans notre tête, qui est celle du griot, notamment. Est-ce qu'on est à côté? Est-ce qu'on est sur autre chose? Ou le griot fait partie griot, également de cette transmission?
Le griot fait partie, mais à condition qu'on ne mette pas dans le griot un certain nombre d'idées reçues ou de clichés qui pourraient accompagner le personnage du griot.
Justement, revenons pour pas qu'on fasse ces confusions. Revenons dessus.
Le personnage du griot, c'est qui? Le personnage du griot, il est à la fois le porteur justement de cette sagesse ancestrale et qui a pour devoir de la transmettre. C'est pour cela qu'il fait ce qu'on a qualifié de griotique. Et là, tout de suite, le griot, c'est également celui dont se sert le politique, ou si vous voulez, l'autorité, pour transmettre ces informations, pour transmettre les lois. Par exemple, on va dire, lorsqu'on veut promulguer loi, le dirigeant peut se servir du griot. Mais il y a une image caricaturale du griot, comme celui-là, qui passe son temps à faire l'éloge du dirigeant, du chef. Ce griot-là, ce n'est pas le griot tel que conçu par l'Afrique traditionnelle. Le griot, c'est... vous savez, l'Afrique, elle est complexe. L'Afrique, elle est complexe parce que la mentalité africaine est une mentalité, on va dire, englobante. Ou, si vous voulez, holistique. Les Africains ont une conception du monde holiste. Et ça fait que le griot, il ne faudrait pas voir, par exemple, le griot comme un professeur uniquement. Il est en même temps professeur, on dira qu'il est en même temps, documentariste, il est en même temps archiviste, mais en même temps il est un créateur, parce qu'il y a une dimension de création dans le griot. Le griot a le devoir de créer. Même le griot, lorsqu'il chante, lorsqu'il enseigne, a une certaine dimension, a une liberté créatrice. Ce n'est pas un simple répétiteur servile. Il a une dimension servile, il a une dimension créatrice. Cette dimension-là, elle est permise. Et ce n'est pas ce servile serviteur du chef qui, même quand le chef est corrompu, va dire n'importe quoi. C'est pour ça, justement, on revient dans le conte. Vous trouverez des contes où le griot se mue en principal opposant d'un système et à travers ce qu'il raconte, à travers ce qu'il enseigne, il est carrément, on va dire, la philosophie, la figure du contre-pouvoir. Il devient la figure du contre-pouvoir. Il n'est plus ce personnage-là qui...
Il transmet, mais il est aussi réceptacle de la population.
Il est aussi réceptacle, justement, parce que c'est à lui de transmettre les informations entre les deux bords, entre le dirigeant et le peuple, parfois même entre le monde des vivants et le monde de ceux qui sont allés au-delà, le monde des ancêtres.
Tinement, merci d'avoir reprécisé cette fonction du griot qui, effectivement, en Occident, quand on parle de griot, on met un petit peu tout et peut-être parfois n'importe quoi. Je te propose, maintenant que nous avons abordé cette question de conte, de philosophie, de Kama, même si on n'aura pas tout abordé, bien entendu, nous le disions en préparant ce petit temps, c'est que nous effleurons du doigt, nous touchons du doigt ces questions-là.
Il était important, permets-moi, qu'on s'introduise et qu'on fasse nos premiers pas, moi je pense, dans le sentier. Le plus important, c'est de commencer la marche. On ne sait jamais où on va, mais si on a pris le sentier, on est sûr que sur le sentier, on fera des choses, on avancera. Nous sommes porteurs par notre existence d'un legs. Et notre seul devoir, c'est de le transmettre. Donc essayons de le transmettre dans la mesure de nos possibles.
Maintenant que nous avons justement emprunté le sentier, si ça te convient, je te propose un extrait de conte ou un conte. Ça, c'est toi qui décidera. Et puis nous y reviendrons un petit peu dessus juste après.
Volontiers, je me permettrai de revenir sur le premier conte que j'ai raconté depuis mon installation en Occident. Et c'est le conte de Ndenbobo. Ndenbobo, c'est l'araignée toilière. Ndenbobo, c'est cette araignée-là qui, un jour, décida d'intenter un procès à Dieu. Elle décida d'intenter un procès à Dieu. Je ne vais pas en dire plus. Je vais essayer de relater la trame du conte, et puis on comprendra. Peut-être qu'en nous questionnant, on trouvera les raisons de ce procès. Ce qu'il nous est dit, c'est que l'araignée, le bobo, comme on l'appelle, mais on dit l'araignée toilienne d'un bobo, en ma langue bantou, fut invité par Dieu à la communion de l'un de ses fils. Et Dieu lui adressa donc une invitation pour lui dire: mon fils, un de tes frères s'est communié, je célèbre une fête à son honneur, tu es invité. Dieu invita également plein d'autres convives. Et parmi ces convives, il y avait notamment le varan. Il y avait le varan, une autre créature de Dieu. Et ce qu'il y a de particulier, c'est que l'araignée ne fit mine de ne pas avoir reçu l'invitation. Le jour de la fête, tout le monde était déjà au lieu de fête. Et l'inauguration de la fête devait déjà se faire. Et ce n'est qu'à ce moment que l'araignée se dit: ah, j'ai quand même reçu une invitation, mais qu'est-ce que je fais? Bon, je vais quand même y aller. Il faut dire que ce Dieu, il dira, mais je vais quand même y aller. Il se pointa à la dernière minute. Et dès qu'il arriva, Dieu lui dit: tant mieux. Je suis très content que tu sois arrivé. Comme tu sais, on est en train de célébrer ton frère qui s'est communié. Voilà, prends place. Et l'araignée resta silencieuse. Elle ne fit même pas mine de répondre aux salutations. La moindre courtoisie, elle restait indifférente. Et Dieu lui demanda: mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es comme ça? Est-ce que tu n'es pas content? Est-ce que tu n'as d'abord pas répondu à l'invitation? Bon, tu te pointes à la dernière minute. Mais pourquoi tu te comportes comme ça? Et l'araignée de l'arrêter et lui dire: attention, toi, tu es très vantard. Tu passes le temps à vouloir te donner bonne figure, à faire comme si tu aimais les humains, mais en réalité, tu es l'auteur de tous leurs maux. Et moi, je ne suis pas venu pour fêter avec toi. Je ne suis pas venu pour fêter avec toi, mais je suis plutôt venu tenter un procès. J'ai envie de dire à toute la communauté de tes créatures ici que tu n'es pas bon du tout. Tu n'es pas bon du tout et je suis prêt à le démontrer. Et Dieu s'arrêta. Je ne suis pas bon. Tu es sûr? Tu peux le prouver? Et l'araignée dit: je ne suis pas bon. Alors Dieu dit: comme s'il en est ainsi, il n'y a pas de problème. Nous allons comparaître, comme tu as intenté un procès. Et Dieu désigna le varan comme greffier. Ils se donnèrent rendez-vous au carrefour à 9 voies, quelques jours après. La fête se passa, je ne vais pas vous raconter, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'ils se rencontraient le jour du rendez-vous. Et le jour du rendez-vous, lorsqu'ils se rencontraient au carrefour à 9 voies, l'araignée vint très tôt. Elle installa sa toile sur le carrefour et Dieu arriva quelque temps après. Et quand Dieu arriva, Dieu lui demanda: bon, énonce tes chefs d'accusation contre moi. Qu'est-ce que tu me reproches? Pourquoi est-ce que tu penses que je ne suis pas bon? Et l'araignée lui dit, et l'araignée fit mine de ne pas répondre et resta encore tranquille. Et l'araignée dit même: laisse-moi tranquille, on attend. L'araignée vit un homme qui venait et qui était en train de craîner sa patte. L'araignée lui dit: bonjour l'homme qui marche en se vantant. Et l'homme lui dit: mais l'araignée, tu me vois en train de craigner ma jambe Et tu te permets de dire que je suis, que je me vante, mais je porte une infirmité. L'araignée lui dit, et l'homme lui dit, toi qui es accroché là en l'air, qui as tissé ta toile là au-dessus, fais attention. Ta chance, c'est que ce n'est pas toi qui m'as affligé ce mot, et que c'est Dieu. Et l'araignée de dit au varan, tu peux noter, voilà le premier chef d'accusation. Dieu était tranquille et l'écoutait. Un autre homme vint, il portait quelque chose dans sa, on va dire dans son pouce. L'araignée fit la même interpellation. Ô homme qui porte de l'argent ou alors de la fortune dans son sac, viens me voir ce qui se passe ici. Et l'homme lui dit, mais l'araignée, qu'est-ce qui ne va pas? Moi, je suis en train de porter un corps, le corps de mon parent qui vient de mourir, et toi, tu me racontes tes choses. Tu as la chance que c'est pas moi. Tu as la chance, c'est pas toi qui m'as donné ce mal. Sinon, je t'arrachais de là et je t'écraserais d'un pied. Et Dieu dit deuxième chef d'accusation. Et l'homme dit, et l'araignée dit deuxième chef d'accusation. Les hommes passèrent, ils passèrent, et chaque fois, la même scène se reproduisait. C'était chaque fois Dieu qui était accusé. Et Dieu lui-même, il était là, il écoutait. À la fin de ces accusations, l'araignée prit parole et il dit à Dieu, « Alors tu vois, quand je te dis que tu n'es pas bon du tout, un de tes enfants s'est contaminé soit, et tu prétends, tu organises une grande fête pour faire bonne figure, mais en réalité, tu n'es pas bon du tout. C'est toi qui accables les humains de tous ces maux. Voilà qu'ils le disent. Qu'est-ce que tu as à dire ?» Et Dieu de lui répondre, « Oh, mon fils l'araignée, oh, mon fils l'araignée, je peux même peut-être accepter que cela ait ce point de vue, mais toi, l'araignée, je t'ai tout donné. C'est toi-même qui n'as pas voulu utiliser la richesse que je t'ai donnée. Tu m'accables de tes maux, mais tu es le seul responsable de tes maux. Et comme tu es le seul responsable de tes maux, moi je vais te punir du fait de ta tétutesse. Ta punition sera de rester éternellement suspendu en l'air. » Ainsi s'achève le conte. La portée philosophique de ce conte, je pense qu'on en reparlera une autre fois.
Merci beaucoup Tinman de cette narration de ce conte. A-t-il un nom en particulier pour les personnes qui souhaiteraient peut-être le lire ou le réentendre?
C'est un conte qui a été recueilli par un ethnologue et sa femme, Towo Atangana. Towo Atangana, il est décédé. Sa femme, elle est française. Je ne sais pas si elle est décédée. J'ai été en contact avec elle lorsque j'étais encore au Cameroun. Je lui avais dit que je travaillais. C'est un conte qui a également commencé à être défriché par un philosophe camerounais, le professeur Martien Towa, de regretter mémoire également. Donc c'est l'un des contes. Il est là, le livre a été publié. Le conte a été publié par le couple Towa Atangana. Je ne pourrais pas préciser ici les éditions, mais on peut chercher en ligne, on retrouvera le couple Towa. C'était un ethnologue et il travaillait avec sa femme, il a recueilli le conte. Le conte est évoqué par Martien Towa, un philosophe camerounais, qui en parle dans l'un de ses essais. Et c'est dans cet essai-là que j'ai rencontré le conte. Et comme le conte m'a parlé particulièrement, j'ai dû aller sur le terrain, essayer de questionner des personnes. Je dirais rapidement quelque chose. Il faut associer à ce conte un proverbe. Le proverbe se dit en étonne, parce que c'est ma langue, Yutu kanga yobana boboni. En réalité, c'est un proverbe interrogatif. C'est une question qu'on pose généralement aux personnes qui présentent dans leur caractère un déficit de maturité. Est-ce que vous resterez suspendu dans l'air comme l'araignée? C'est l'élément de sens que je propose pour ceux qui nous ont écoutés. Et peut-être que la prochaine fois, on essaiera de méditer sur le conte afin de le décortiquer et d'entrer plus en profondeur.
Merci beaucoup, Tinman, de nous avoir conté et de nous avoir proposé cet instant en suspens, parce que justement, c'est tout l'intérêt aussi du conte. C'est pas forcément d'avoir tout de suite un décryptage de texte, mais bien entendu, d'en faire sien avant, effectivement, de trouver à quel moment est-ce que peut-être, ce conte nous éclairera.
Peut-être qu'il sera intéressant que les auditeurs nous proposent la lecture de ce conte, qu'ils réagissent et qu'on attende leur réaction et puis qu'on s'arrête un soir pour revenir dessus afin de leur proposer, à partir d'un certain nombre d'éléments, la crame, notamment la crame significative. Parce qu'il faut le dire, et c'est Ampateba qui le disait, le conte, fondamentalement, c'est comme une graine qu'on sème dans l'individu. Et le plus important, c'est de la voir s'aimer. Parce que l'individu, l'être de l'homme, est une terre fertile. Le conte en lui-même saura trouver, en temps opportun, les éléments pour rejaillir. Il sera fertilisé, il sera nourri, et la conscience, l'âme de l'individu est suffisamment fertile pour que le conte se transforme et fleurisse à l'intérieur de l'homme.
Merci beaucoup, Tinman, de nous avoir proposé ce conte. Et du coup, le rendez-vous est pris, bien entendu. Nous aurons une deuxième session ensemble pour aller un petit peu plus loin, et notamment à travers ce conte. Merci beaucoup à toi.
Merci.
Oh,